Joyeux Noël! C'est ça, joyeux Noël. Noël qui vient de naissance, hein, on s'en souvient, on l'a vu dimanche passé, hein, dit Natale, enfin, Natalis, etc., qui vient de naissance. Joyeuse naissance, c'est vrai, celle que la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma prière ce matin, c'est que notre cœur soit réchauffé, soit embrasé par la parole de Dieu. Et nous prions vraiment que l'Esprit œuvre dans nos cœurs ce matin particulièrement. Et c'est vrai que l'Ancien Testament parlait souvent d'un libérateur à venir, de la Genèse jusqu'à Malachie. Tout l'Ancien Testament parle en fait de ce libérateur à venir. Et ce matin, ce dimanche particulier du 25 décembre, jour de Noël, c'est une opportunité qui nous est donnée de parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons ce matin suivre en fait l'annonce de la venue de Christ dans l'Ancien Testament pour parvenir ensuite à l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et plusieurs personnes interviendront dans la lecture des textes bibliques. Donc, j'invite chacun à avoir une Bible. Nous allons lire des textes qui ont plusieurs milliers d'années. Est-ce qu'on se rend toujours compte un petit peu de cette richesse que nous avons entre nos mains et qui annonçait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom de Jésus, c'est vrai, n'est pas forcément donné dans chaque texte. Nous avons besoin de l'interpréter pour savoir qu'il est parlé de Jésus-Christ, mais cette interprétation est toujours en fait corroborée par les textes du Nouveau Testament, comme nous le verrons. Et la première annonce de ce sauveur, de ce libérateur, se trouve évidemment dans le premier livre de la Bible. On peut aller dans Genèse. Et en fait, Dieu, dès la chute, annonce une descendance. Une descendance à la femme. Cette descendance annoncée dans Genèse 3,15, c'est Jésus-Christ qui est né d'une femme. Alors, donc c'est Dieu qui s'adresse au serpent et qui dit: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui écraseras le talon. Jésus-Christ est le descendant d'Ève et de Marie. Et il a écrasé la tête du serpent qui l'a blessé par les souffrances qu'il a subies. Ça, c'est plus de 6000 ans avant. 2000 ans avant, Dieu annonce à Abraham qu'il aura une descendance qui sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Paul dit d'ailleurs en Galates 3, 16, que Dieu ne parlait pas de plusieurs descendances, mais d'une seule, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, bien entendu, il faudrait lire toute l'histoire d'Abraham pour bien saisir ses promesses, cette promesse de descendance. Mais nous lirons simplement le début de l'histoire en Genèse 12, et cette histoire continue jusqu'à Genèse 25. Oh, n'ayez crainte, nous lirons que trois versets ce matin. Mais vous pouvez reprendre toute l'histoire. Alors, je vous invite à continuer dans votre Bible. On est dans Genèse. Allez dans Genèse 12. Et nous lirons les trois premiers versets. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Dans cette descendance d'Abraham qui est Jésus-Christ. En fait, toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus-Christ. Voilà la promesse que nous avons ici dans ce verset. Alors, c'est vrai que les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus n'étaient pas toujours conscients de tous les détails que cela comportait. Mais Dieu qui les inspirait et qui maîtrise l'histoire, lui le savait. Et voilà pourquoi nous avons ces éléments qui sont bien détaillés et que nous allons aussi découvrir petit à petit. Et du temps de Moïse, Dieu a annoncé qu'un prophète viendrait. Acte 3 nous dit que ce prophète annoncé par Moïse est Jésus-Christ lui-même. Et nous allons donc aller dans vos Bibles, dans Deutéronome 18, et nous allons entendre la lecture de ce texte 18, de 15 à 19, et suivi directement du texte de Acte 3, 22 à 26, qui explique que c'est Jésus-Christ qui accomplit cette prophétie.
Deutéronome 18, les versets 15 à 19. d'abord, c'est Moïse qui parle au nom du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais « Que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Et dans Actes, nous lisons à qui se rapporte cette prophétie de Moïse. Actes 3, versets 22 à 26. C'est l'apôtre Pierre, après avoir guéri le boiteux de la belle porte, s'adresse à Israël, et voici ce qu'il leur dit. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités.
Et le serviteur dont Pierre parle ici, il s'agit évidemment de Jésus-Christ, en prenant le contexte de ce passage. Là, on était à 1500 ans avant Jésus-Christ. Plus de 800 ans avant Jésus-Christ, un prophète annonce même le lieu de naissance du Messie. C'est Michée, qui vivait au temps d'Akab, ce roi impie. Michée, regardez avec moi dans Michée. Michée au chapitre 5, le verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Et pour les Juifs, c'était parfaitement clair que ce passage annonçait le lieu de naissance du Messie. C'est d'ailleurs ce texte-là qui a permis aux scribes de dire à Hérode où allait naître le roi des Juifs. Donc c'est un fait qui était connu et qui doit aussi l'être pour nous en fait. Michée annonçait la venue du Messie à Bethléem. Un peu plus tard, un autre prophète est arrivé. C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe qui a eu un ministère difficile, où Dieu lui a même annoncé que tu prêcheras et personne ne t'écoutera. Pas facile comme ministère. Mais Dieu a donné des révélations tout à fait particulières à Ésaïe, dans lesquelles nous nous plaisons à retourner régulièrement. Et l'une, bien c'est dans Ésaïe 7, le verset 14, qui parlait d'une vierge qui deviendra enceinte. Alors c'est vrai que certaines traductions parlent d'une jeune fille, parce que c'est un terme qu'on peut utiliser, c'est le même terme en hébreu pour jeune fille ou vierge. Verset 14 de Ésaïe 7, vous pouvez aller chercher, nous continuerons ensuite dans Ésaïe encore. Donc Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte, Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, de nouveau, le terme Emmanuel, ben voilà, si on n'a pas la signification, il n'y a pas la même richesse. La signification d'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est l'annonce de la venue de Dieu lui-même parmi nous. Quelque chose qui est juste exceptionnel. Et un peu plus tard, Ésaïe reçoit cette merveilleuse prophétie de la lumière qui brille dans les ténèbres. Jésus lui-même dira qu'il est la lumière du monde. Jean le présente comme étant la lumière. Et cette lumière est un enfant qui reçoit des noms glorieux. Parmi eux, Dieu puissant. Il est annoncé donc dans cette prophétie que nous allons entendre que Dieu lui-même viendrait. Rappelons-nous aussi que la lumière est quelque chose qui était là dès le début. Marie, en fait, quand elle a reçu la visitation de l'ange, était illuminée de lumière. Pour réfléchir à toutes les fois, il y a eu de la lumière ensuite dans tout ce qui s'est passé. Donc Marie avait reçu la visite lumineuse d'un ange dans le pays, ou si vous voulez, pour parler suisse, dans le canton de Nephtali. Nous lisons maintenant Ésaïe 8, les versets 23 jusqu'à 9-6. Nous écoutons cette lecture. Ésaïe 8, 23 à 9-6.
Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Oh, nous pourrions prendre encore bien du temps pour lire toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus-Christ, de la souffrance qu'il allait vivre, des différents éléments de détail, même en lien avec sa trahison et même au prix auquel il serait vendu. Tout cela, nous le trouvons dans les prophètes. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons plutôt sur le début de sa vie sur terre. Et nous allons maintenant nous tourner vers le Nouveau Testament pour lire ce qui s'est réellement passé, puisque tout ceci a été annoncé des centaines d'années précédentes. Et nous allons maintenant lire ce qu'il s'est passé. Mais avant de lire le récit de la naissance, nous lisons un texte qui présente Jésus comme étant Dieu qui existait déjà avant de naître de Marie. En fait, Jésus n'est pas issu de la terre. Il est venu sur cette terre en prenant la forme du début de vie, même s'il existait déjà avant. C'est le seul au monde, en fait, parce que personne d'autre n'existait réellement en tant que personne avant sa naissance. Personne d'autre que Christ. Et c'est Jean qui nous donne l'instruction de la venue de Jésus dans le monde et nous explique qu'il nous a fait connaître Dieu. Et nous allons entendre la lecture de Jean 1, les versets 1 à 18. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, et nous entendons la lecture du verset 1 au verset 18.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre hommage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Et juste avant la naissance de Jésus, un événement étonnant et important se produit. C'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui devient enceinte dans sa vieillesse. Comme c'était le cas pour Sarah, vous vous souvenez, Sarah et Abraham. Et comme nous allons retrouver cette personne dans la suite de l'histoire, il est utile de nous rappeler ce qui s'est passé. Nous allons entendre la lecture de Luc au chapitre 1, les versets 1 à 25. Luc 1, versets 1 à 25.
Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange : À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit : Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. »
Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Et à ce moment, un événement se produit au nord du pays. Parce qu'en fait, Élisabeth habitait dans le canton de Juda, au sud. Et un événement se produit en fait dans le canton de Nephtali, au nord. Et je vais laisser Luc continuer à nous parler de cela et nous entendrons la lecture à partir du verset 26.
Luc 1, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle.
Quand on lit les textes, essaye d'imaginer ce qui se passe. Et là, Marie connaissait sûrement les prophéties concernant le Messie. Quelle émotion elle a dû avoir quand elle a compris ce que l'ange lui a dit. Alors, l'a-t-elle compris ce jour-là ou plus tard? La Bible ne le dit pas. Mais quelle émotion! Et dans cette situation-là, elle pose une question qui n'est pas du scepticisme, mais une question pratique. Qui doit être le père de cet enfant particulier? Et l'ange lui dit que le Saint-Esprit la couvrira de son ombre et que Jésus sera appelé fils de Dieu. Et nous comprenons avec Marie que le Saint-Esprit est Dieu. Et avant qu'elle puisse se demander si cela est possible, l'ange rapidement lui donne un exemple vivant de la puissance de Dieu qui peut donner la vie même à une personne qui n'est plus en âge de donner la vie. Dieu peut tout faire. Ce qui est impossible à nos yeux ne l'est pas à ses yeux. Voilà pourquoi l'ange dit à Marie que sa parente, Élisabeth, est enceinte par un miracle de conception. Et Marie connaît sa parente. Et cela l'a beaucoup rassurée. Elle ne sait pas ce qui l'attend, Marie. Mais elle accepte ce qui lui est annoncé. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Que va faire Marie? Eh bien, sans perdre de temps, elle va aller chez Élisabeth, qui vit aussi quelque chose de tout particulier. Et avec elle, Marie pourra partager. Elle aura quelqu'un qui comprend ce qu'elle vit, puisqu'à ce moment-là, elle vit aussi quelque chose de tout à fait particulier. Nous allons justement lire la suite de ce qui se passe à partir du verset 39 de Luc 1, nous entendrons donc la lecture maintenant.
Luc 1, 39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.
Marie est enceinte de 2-3 mois lorsqu'elle revient chez elle. Cela ne se voit pas encore vraiment. Mais elle ne peut pas cacher cela à son fiancé Joseph. Comment va réagir Joseph ? Eh bien, c'est l'évangile de Matthieu qui nous dit ce qui s'est passé pour le bien-aimé de Marie. Et nous allons dans Matthieu au chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 18. Matthieu 1, à partir du verset 18. Nous entendrons cette lecture maintenant.
Matthieu 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Matthieu, qui écrit son évangile aux Juifs, leur rappelle en fait qu'une prophétie qui était dite 800 ans avant, que nous avons lu tout à l'heure, est en train de s'accomplir ou s'est accomplie en Jésus-Christ. Et nous voyons un Joseph attentionné qui aime tendrement sa Marie, et qu'il la prend chez lui, qu'il la respecte, qu'il la soutient dans sa mission tout à fait particulière. Marie et Joseph se sont donc mariés, rapidement, je pense. Marie est enceinte, et un décret du gouverneur romain les oblige à quitter Nazareth, au nord du pays, dans le canton de Nephtali, pour descendre au canton de Juda au sud, donc à Bethléem, un déplacement d'environ 150 km à pied ou à dos d'âne. Mais laissons l'historien Luc nous raconter tout cela et lisons le texte dans Luc 2 au chapitre 2, voilà, versets 1 à 7.
En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Où est né Jésus ? Ben, à l'endroit prédit par Michée, 800 ans avant, à Bethléem. C'est vrai que Jésus n'est pas né sous les feux de la rampe. Il est né discrètement dans une étable. Il n'y avait pas de place à l'hôtel, ni dans une auberge, ni dans les bed and breakfast, mais dans une étable, dans une écurie. Comme l'expliquera Paul dans l'Épître aux Philippiens, Jésus s'est abaissé, au plus bas pour nous rejoindre dans notre humanité. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que de l'abaissement ce soir-là. Nous revenons à la notion de lumière, car Dieu a choisi d'envoyer des faire-part. Et un de ces faire-part est arrivé en fait vers des bergers qui s'occupaient de leurs troupeaux dehors, dans la nuit. C'est la suite du texte que nous lisons dans Luc 2, verset 8.
Luc 2, 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit.
Vous imaginez être un berger dans cette nuit mémorable? Ils s'en souviennent toute leur vie. Vous vous rendez compte? Un message apporté par un ange. Un message de paix. Un sauveur, le Messie, qui veut dire oint ou Christ. On avait vu que c'était les mêmes mots. Le Seigneur. C'est un ange qui leur avait dit cela. Et non seulement un ange, mais toute une armée céleste qui était venue pour louer Dieu. C'est du sérieux. Ils n'ont pas rêvé. Ils sont sûrs de ne pas avoir rêvé, puisqu'ils sont allés à Bethléem et ont trouvé tout comme il leur avait été dit. C'est l'étonnement général, mais la joie dans le ciel. Et je l'espère aussi dans nos cœurs, quand on passe tout ce récit en fait, qui s'est réellement passé, que nos cœurs se réchauffent. Marie, après l'accouchement, ne pouvaient pas se déplacer très loin. Ils restèrent donc à Bethléem. Et le huitième jour, comme tous les Juifs avant lui, Jésus a été circoncis. C'est écrit, regardez avec moi, dans Luc 2, le verset 21, un court verset. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Jésus a été circoncis comme tous les Juifs, puisque Dieu avait demandé à Abraham de circoncire tout mâle et toute sa descendance. Et chacun est obligé de le faire, sinon il ne faisait pas vraiment partie du peuple. Entre le verset 21 que nous venons de lire et le verset 22 que nous allons lire, il se passe 33 jours. En fait, selon le Lévitique, au chapitre 12, versets 1 à 8, Marie était impure pendant 7 jours après la naissance de son garçon et vivait ensuite un temps de purification pendant 33 jours. Cela fait donc 40 jours après la naissance de son enfant qu'il fallait se présenter au temple pour faire un sacrifice d'expiation. Et si les moyens lui permettaient, ne lui permettaient pas d'offrir un agneau, elle apportait deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. En fait, ce qui se passe au temple, c'est la purification de Marie. Et nous allons lire ce qui est écrit dans le Lévitique au chapitre 12. Nous lirons que ce qui concerne la naissance des garçons. Et nous lirons ensuite directement ce qui s'est passé pour Jésus dans Luc 2, verset 22. Donc vous pouvez garder un petit doigt dans Luc 2 et puis déjà aller chercher Lévitique 12 où nous lirons les versets 1 à 8.
Lévitique 12, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera rien de sacré et n'ira pas au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. » Verset 6. « Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante. » Verset 8. Si elle n'a pas en main de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Nous lisons maintenant dans Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 24. Luc 2, 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur.
Joseph et Marie sont donc allés de Bethléem à Jérusalem, c'était assez proche, je pense 2 heures de marche, pour vivre la purification due à l'accouchement et au sang perdu. Et dans le temple, donc quand ils ont accompli tout cela, ils vont rencontrer 2 personnes. Et je laisse à notre historien Luc le plaisir de nous présenter ces 2 personnes. Et nous lirons les 2 textes à la suite de Luc 2, 25 à 35 et jusqu'au verset 38 également, qui nous parle de la rencontre avec 2 personnes. La première, vous l'aurez deviné, avec Siméon, et la deuxième avec Anne. Nous entendons donc la lecture de Luc 2, 25 à 38.
Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem.
Ces deux rencontres faites dans le temple, Joseph et Marie avec leur enfant que Dieu leur a confié, sont sûrement retournés à Bethléem où ils avaient laissé leurs affaires. Joseph a-t-il décidé de prolonger un peu le séjour à Bethléem pour permettre à Marie de se remettre, pour permettre à l'enfant aussi d'avoir quelques semaines pour refaire le voyage, pour retourner à Nazareth? La Bible ne nous le dit pas, mais elle nous donne encore un élément important. Et cela a dû se passer au moment relativement proche où Joseph et Marie projetaient de retourner à Nazareth. C'est la visite de personnages importants venus d'Orient. Matthieu, le publicain devenu disciple, qui connaissait la valeur des richesses, nous en parle. Et nous lisons dans Matthieu 2, les versets 1 à 15.
Matthieu 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. »
Quand il est question dans l'Ancien Testament d'appeler le Fils hors d'Égypte, nous pensons souvent au peuple d'Israël que Dieu appelle son Fils. Mais nous comprenons avec Matthieu que Dieu parle en fait d'un Fils particulier qui devait naître de ce peuple. Jésus est le Fils. Jésus est la descendance. Et après être allé en Égypte, Joseph et Marie sont revenus avec Jésus à Nazareth, où Jésus a vécu son enfance, sa jeunesse, dans la maison du charpentier. Nous avons pris ce matin le temps de relire ces textes, de nous laisser remplir de cette parole. Qu'allons-nous retenir de ces lectures de la parole de Dieu? Si vous avez compris ce que nous avons lu, vous savez que Jésus est vraiment venu dans ce monde. Ce sont des textes historiques qui rappellent un récit qui s'est passé et qu'il a réalisé les prophéties qui étaient annoncées. Il est réellement le sauveur du monde, comme le nom Jésus le dit. Que veut dire Jésus? Dieu sauve. Dieu sauve. Il est notre roi, il donne un sens à notre vie, à tout ce que nous faisons et vivons. Question on peut se poser. Est-ce que ce que je fais a un sens à mes yeux? Si cela n'a pas de sens, mais relisez les textes que nous avons lus. Jésus est venu, Dieu lui-même est venu sur cette terre. Pourquoi? Pourquoi est-il venu? Parce que ça lui faisait plaisir? Oh, c'est vrai qu'il l'a fait par amour. Mais ce n'était pas une partie de plaisir. C'était de l'humiliation, c'était une souffrance. Et il est venu pour s'identifier à nous, enfin pour tout, surtout que nous puissions nous identifier à lui, mais pour s'identifier à nous, pour prendre notre place à la croix et payer. Il est notre sauveur. Et il va revenir. Il est venu une fois, il va revenir. Autant vrai qu'il est venu, il va revenir. Soyons donc prêts pour le rencontrer. En fait, c'est ça Noël. C'est la venue de Dieu sur cette terre qui est venue accomplir parfaitement une mission qui nous permet aujourd'hui de nous réunir ici pour l'adorer, pour le louer. Et j'aime à le dire, je l'ai déjà dit, je continuerai à le dire, moi je suis fier d'un Dieu fantastique et puissant tel que nous avons. C'est le seul qui est capable de devenir homme sans changer, sans péché, c'est juste, et sans en fait ne plus être Dieu. C'est incroyable, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. On peut chercher dans tout le monde entier, il n'y en a pas d'autre. Soyons fiers de ce Dieu qui est venu parmi nous, mais non seulement fiers, saisissons ce message. Si nous ne saisissons pas ce message, tout ce qu'on a fait ce matin ne sert à rien. Rien du tout. Du vent qui passe, inutile. Non, que chaque jour, en fait, donne pour nous naissance à une ressemblance toujours plus proche de Christ, qui est un homme aimant, joyeux, paisible, patient, bon, bienveillant, fidèle, doux et maître de lui-même. C'est à cet homme-là que nous voulons ressembler par la grâce de Dieu et avec sa force. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous avons un privilège qui est juste extraordinaire. Nous pouvons lire ta révélation, ta parole, qui nous parle de faits historiques, qui nous donne aussi certaines explications, qui nous conduit dans la compréhension de ton œuvre sur cette terre, pour nous et pour ta gloire. Seigneur, j'aimerais te prier que lorsque nous lisons ces textes, qui sont pour certains connus, eh bien nous n'ayons pas une oreille distraite. Combien, Seigneur, nous facilement lisons ces choses en nous disant nous-mêmes nous connaissons et nos pensées sont ailleurs. Non, Seigneur, nous te prions que nos cœurs puissent être saisis tout à nouveau, réjouis de ton œuvre et que nous puissions, ce jour de Noël, être dans cette paix annoncée par les anges aux bergers. Parce que tu es venu. Parce que tu as tout accompli. et parce que nous pouvons saisir ce salut par la foi que tu nous donnes, et que nous puissions, Seigneur, ensemble, regarder de l'avant en nous réjouissant de ce que tu as déjà fait dans nos vies. Ô Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette naissance spirituelle. Ceux qui ne, en fait, sont peut-être intéressés par ces lectures bibliques, mais qui ne sont pas touchés. Seigneur, j'aimerais te prier par ton esprit de réveiller ces esprits, de les ressusciter, de les rendre vivants. Et que pour tous les prochains Noëls, ce soit des temps de reconnaissance de ta venue sur cette terre. Seigneur, nous sommes conscients aussi dans ces temps de Noël qu'il y a bien de la souffrance dans le monde. Il y a bien de la souffrance dans nos pays, parfois cachée. Il y a bien de la souffrance dans nos familles et même dans nos vies. Seigneur, nous te prions de nous garder fidèles malgré les souffrances. Christ est venu sur cette terre dans une écurie. Il a vécu une vie de souffrance. Il est resté fidèle pour que nous puissions bénéficier de ta fidélité envers nous. Seigneur, nous te remercions pour cela et te prions que ces souffrances, nous puissions aussi avoir cette force par ta grâce de te les amener, de les déposer au pied de ta croix et de saisir ta bienveillance et ta bonté. Seigneur, j'aimerais te prier particulièrement aussi pour les familles déchirées. Tu vois que ces temps sont difficiles. Tu vois que le péché a des conséquences qui font mal. Bien Seigneur, que ces rappels de conséquences ne nous poussent pas à l'amertume, mais nous poussent à la repentance. Nous poussent aussi à nous réjouir qu'un jour tu nous libéreras de ce péché totalement et que nous serons dans une joie parfaite. Et que nous chanterons avec les anges gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.